Alors ce soir, je vais vous parler d'un sujet, je ne vais pas le traiter de façon exhaustive, mais un aspect qui est important et que je n'avais jamais vu auparavant. Mais avant cela, je vais vous lire quelques passages et quelques versets. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la conscience. La conscience, c'est un mot qui apparaît plusieurs fois dans les Écritures et qui est un élément de notre âme, c'est une vertu, une qualité de notre âme lorsqu'elle est bien utilisée, qui nous permet de discerner le bien et le mal. Et la conscience est renforcée ou nourrie par la parole de Dieu lorsque nous marchons avec Dieu, ou alors elle est nourrie par notre culture, par aussi la notion du bien et du mal que Dieu a déposée dans nos cœurs dès notre naissance. Et donc d'abord, j'aimerais vous parler de deux passages. Je ne vais pas les commenter, mais je voulais commencer par ces passages pour vous montrer qu'il peut y avoir plusieurs consciences. Il n'y a pas une conscience. Alors nous, on en a chacun une, hein, mais il y a des consciences différentes. Et il est important de savoir qu'il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises consciences, et il est important de considérer nos vies sous le regard de la conscience. En Luc chapitre 12, versets 47 et 48, par exemple, Jésus donne l'exemple de serviteurs, hein, qui ont eu des talents. Et il dit donc en Luc 12, 47 et suivant, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Donc là, dans ce passage, Jésus nous parle de la façon dont Dieu voit l'existence de chacun, et il est conscient que nous avons des consciences différentes, et il sait aussi ce qui a nourri notre conscience. Ce qui fait que quand vous avez un serviteur, en l'occurrence, qui sait beaucoup de choses sur la volonté de son maître et qui ne fait pas la volonté de son maître, il est beaucoup plus responsable. Parce que sa conscience a été alimentée par la vérité ou par la volonté du maître, et donc la désobéissance a été plus forte, puisque la conscience était plus forte elle aussi. Donc plus la conscience est du côté du bien, plus nous pouvons discerner le bien, plus nous connaissons la volonté de Dieu, plus nous sommes responsables. Ce qui fait que la conscience est là pour nous donner une bonne direction, mais si on va dans une direction opposée, ça s'appelle la désobéissance, le péché, mais c'est plus grave aux yeux de Dieu parce que la conscience était équipée normalement pour qu'on prenne les bonnes décisions. Il faut savoir une chose, c'est que pour Dieu, le péché est le péché. L'ignorance n'est pas une excuse. C'est pas parce qu'on ignore la volonté de Dieu que lorsqu'on fait quelque chose de mal, ce n'est pas un péché. Ça reste un péché même quand on n'en est pas conscient. En revanche, la discipline de Dieu, le jugement de Dieu, lui, sera différent. C'est-à-dire que Dieu va traiter le péché, quel qu'il soit, que ça soit dans l'éternité, c'est-à-dire que quand au jugement du grand trône blanc, lorsqu'il y aura le jugement de ceux qui n'auront pas cru, ils seront jugés selon leurs œuvres. Ils seront tous condamnés, puisque la condamnation est liée au rejet de Jésus-Christ. Donc ceux qui auront rejeté Jésus-Christ seront condamnés. Mais les jugements seront différents en fonction de la vérité qui aura été reçue, et en fonction de la conscience qu'auront eu les gens devant la volonté de Dieu, devant ce qui est bien. Ce qui fait que si on a une conscience éclairée et que nous désobéissons, notre conscience est peut-être supérieure à celle d'autrui, mais cette conscience ne nous justifie pas. Ce qui compte, c'est l'obéissance à ce qui nous a été communiqué. Paul parle aussi de ces différentes consciences, toujours en parlant du jugement de Dieu. Vous vous rappelez quand il commence l'épître aux Romains, il parle principalement de plusieurs groupes d'individus. Il parle des païens qui ont une conscience, donc ça veut dire qu'ils ont une loi pour eux-mêmes. Il parle aussi des juifs, il parle des idolâtres. Et en Romains 2, versets 12 à 16, il est dit: « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » Donc c'est ce que je vous disais, tout péché mérite jugement. Donc tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est-à-dire que la loi de Moïse demandait certaines choses, éclairait la conscience des juifs, et si un juif désobéissait, il allait être jugé ou il sera jugé en fonction de la loi, parce que il a été éclairé et il connaissait les conséquences de la désobéissance. En revanche, ceux qui étaient sans loi périront sans loi, c'est-à-dire qu'ils vont périr, mais sans le jugement de la loi. Donc vous voyez, il y a différentes consciences et différents degrés de jugement, et Dieu sait cela, parce qu'il est juste. Mais le péché reste le péché. Au verset 13, il dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Alors, nous avons été justifiés par Jésus-Christ, donc on est, je dirais, tranquille de ce côté-là, mais ça n'enlève pas le fait que Dieu, lui, ne change pas, et il va quand même discipliner les croyants en fonction de cette vérité aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on peut devenir un peu comme des juifs prétentieux à l'époque qui disaient, ben voilà, il y a les nations païennes, ils connaissent pas la loi, ce sont des idolâtres, nous, nous sommes éclairés, nous avons reçu la parole de Dieu, donc on est justifié devant Dieu. Paul dit, c'est pas parce que tu écoutes la loi que tu es justifié. C'est pas parce que tu es au bon endroit. C'est pas parce que tu fais partie du bon peuple que tu es justifié. Tu es justifié si tu mets en pratique. Et la même chose, c'est la même chose dans notre vie chrétienne, en fait. C'est-à-dire que faisons attention à cette vérité. C'est que des fois, on a tendance à penser, ça vient vite, hein, qu'on est dans la bonne maison, on est dans la bonne église, on est dans la bonne doctrine, nous sommes dans la vérité, nous lisons notre Bible, nous sommes éclairés. Et donc, on a tendance à se considérer au-dessus des autres. Et d'une certaine manière, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que si nous croyons que la Bible est la vérité, nous sommes des privilégiés à ce niveau-là. On n'est pas supérieur intrinsèquement, mais on a des bénédictions supérieures. C'est évident, on a le privilège d'être éclairé. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de mettre en pratique ce que nous avons reçu. Et donc, notre conscience qui est éclairée nous guide dans la bonne direction, et nous avons toujours besoin de prendre notre croix, de nous humilier pour marcher dans les voies que Dieu veut pour notre vie. Et donc, au verset 14, il continue l'apôtre Paul en disant « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. » C'est-à-dire qu'il y a une partie de la loi, par exemple, le meurtre, ça ne doit pas être pratiqué, c'est dans les 10 commandements. Mais dans d'autres sociétés aussi, païennes, le meurtre était interdit. Donc, parce que c'était interdit, la conscience de ces païens sans la loi était éclairée. Et donc, cette loi qui était dans leur cœur, les accusait ou les défendait en fonction de leur obéissance ou pas. Parce qu'au verset 15, il est dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc vous voyez, nous voyons que dans l'âme humaine, il y a comme un combat, c'est-à-dire qu'il y a dans un premier temps la parole ou la loi naturelle, je dirais, qui éclaire notre conscience, idéalement, et puis ensuite cette conscience nous indique la direction à prendre. Le problème, c'est que à cause du péché, nous avons tendance à désobéir. Et donc, il y a une lutte, et c'est en prenant notre croix que nous nous soumettons à ce que notre conscience nous dicte lorsqu'elle a été éclairée. Et au verset 16, il termine, l'apôtre Paul, en disant « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Et donc là, on parle encore une fois de la conscience, parce que la conscience, elle se voit pas. C'est une action secrète. Et si je n'obéis pas à ma conscience, je commets un péché. Alors, on va voir aussi que cette conscience n'est pas un étalon parfait, forcément. Elle est là, elle opère, elle s'impose. Mais c'est pour vous donner une idée. On nous apprend en France, en tout cas à l'époque, maintenant c'est peut-être un peu moins fort, quoique, mais on nous apprend que la fourchette doit être à gauche de l'assiette et que le couteau doit être à droite de l'assiette. Honnêtement, c'est pas une loi de Dieu, ça. Hein. Je veux dire, c'est une culture, c'est une coutume, et voilà, on nous inculque ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ça marque tellement nos consciences et qu'on nous a tellement dit, étant petit, que c'est interdit, que c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'on fait, sans qu'il y ait une raison valable. Bon, on nous a dit que c'était pas bien. Et ce qui fait que ça rentre dans notre conscience, Ce qui fait que si on va dans un restaurant et que le couteau est à gauche et la fourchette à droite, on va râler. C'est comme si on commettait un péché devant nous. Et immanquablement, on va inverser la fourchette et le couteau. Alors peut-être parce qu'aussi, au niveau de la gestuelle, on s'est habitué à utiliser le couteau avec la main droite, etc. Mais c'est intéressant de voir que si on voit une personne qui fait le contraire, bon, aujourd'hui, ça choque plus. Mais à une époque, ça aurait été impossible dans notre société. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que la conscience, c'est-à-dire un élément de notre âme qui est invisible, va juger sur la place que doit avoir la fourchette et la cuillère ou le couteau autour de l'assiette. C'est quand même incroyable. Et dans une autre culture, si on fait à l'envers, eh ben, ils penseront autrement, leur conscience parlera autrement. Donc tout ça pour vous expliquer que la conscience, des fois, elle peut être souillée, et, alors soit souillée par le péché, mais des fois souillée par des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité ou avec la vie. Donc c'est important de, quand nous vivons en crise, de rentrer dans une forme de liberté. Je sais pas moi, si vous avez envie de manger des fruits en entrée, faites-le, on est libre. Vous voyez, c'est que on nous apprend tellement de choses comme des lois qu'à un moment donné, on est même prisonnier pour des détails de la vie qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle, mais ça devient spirituel dans nos consciences. C'est-à-dire que on fait quelque chose qui était interdit, qui n'est pas interdit par Dieu, mais notre conscience nous l'interdit. Et pourquoi notre conscience nous l'interdit? Parce qu'on nous a dit que c'était pas bien. Mais qui nous a dit ça? C'est un peu comme Ève et Adam qui sont nus devant Dieu. Ils disent on est nus, on a honte. Et Dieu dit mais qui t'a dit que tu étais nu? Vous voyez, c'est notre conscience peut être alimentée par une autre source que le Dieu de vérité. Donc des fois on peut avoir une conscience faible. En 1 Corinthiens 8, 12, Paul parle de cette conscience faible. Il dit en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience. Faible, vous péchez contre Christ. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens, il est question de la viande sacrifiée aux idoles et qui était ensuite vendue au marché. Est-ce qu'on a le droit d'en manger ou pas? Est-ce qu'on peut en acheter? Et je la fais courte, hein, je paraphrase, mais Paul dit, en réalité, il n'y a plus d'idole. Dans le contexte où il dit, pour les chrétiens, il n'y a plus d'idole. Nous, on a peur de rien maintenant. Donc, si dans un temple, ils ont utilisé cette viande, enfin, ils ont tué des animaux et c'est devenu de la viande, et c'est vrai que ces animaux étaient sacrifiés à des idoles du point de vue de ces adorateurs. Ensuite, cette viande a été découpée, elle est vendue sur la place du marché à un prix moindre que la viande ordinaire. Bah, pour Paul, c'est de la viande, ce n'est plus de la viande sacrifiée aux idoles au niveau de sa conscience. Donc, on voit que sa conscience a été libérée. Mais il dit là, il y a des frères qui ont peut-être une conscience plus faible, c'est-à-dire que pour eux, c'est un péché de manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Même si c'est pas eux qui ont sacrifié ces animaux, même si ce sont d'autres qui l'ont fait, mais pour eux, il y a quelque chose de mystique, d'un peu dangereux. Lorsque j'étais au Togo avec Pasteur Luigi, notamment, je me rappelle très bien, c'était un soir, il faut savoir que quand on est dans un pays près de l'équateur, il fait nuit à 18h ou 19h toute l'année, d'accord? C'est l'hiver, la nuit tombe à 18h, l'été, elle tombe à 19h, donc il n'y a presque pas de différence. Donc on évangélisait, il faisait nuit, et on a rencontré un homme qui avait vraiment une conscience lourde, si vous voulez, il y avait beaucoup de choses qui lui pesaient, et donc on a commencé à lui parler d'évangile, c'était dehors, et il nous a demandé de venir dans sa maison après peut-être une demi-heure, une heure de discussion, hein. Et en tout cas, on a eu l'impression qu'il nous faisait confiance, et c'était le cas. Donc on est rentré chez lui, et là c'est intéressant parce qu'on voit vraiment une conversion réelle, si vous voulez, où la puissance de l'esprit est tellement forte, même sur un laps de temps très court, que ça révolutionne complètement l'esprit d'un individu. Et ça révolutionne sa façon de penser, ça le délivre des chaînes de sa culture, de sa religion, parce qu'il faut savoir que le vaudou, c'est une religion qui met une pression très forte sur les gens, il y a beaucoup de superstitions, c'est une religion de la crainte, plus que d'autres religions, c'est vraiment une religion de la crainte, et il y a beaucoup de superstitions et de peur. Et en fait, il avait hérité, entre guillemets, des fétiches de sa famille qui étaient sous son lit, et qui étaient donc des fétiches protecteurs, c'est considéré comme des personnes vivantes presque, hein. Mais il avait réalisé que tout ça était une erreur, il avait accepté Christ, et donc il nous a confié ses fétiches. il nous les a donnés parce que pour lui c'était un acte fort, et alors qu'on lui en avait, on lui avait pas parlé de cela, hein, c'est pas un sujet qu'on avait abordé, c'est lui qui nous en a parlé, qui de lui-même, on lui a pas demandé, c'est lui qui a voulu s'en débarrasser. Alors peut-être qu'il avait entendu avant des messages de l'Évangile, soit dans l'Église catholique, soit par des évangéliques, je sais pas, mais il savait que c'était un péché, sa conscience lui montrait qu'il fallait pas qu'il garde ses statuettes et ses... Il y avait des pierres aussi, qu'il fallait pas qu'il les garde, parce que pour lui, c'était quelque chose qui était une pierre d'achoppement, et il voulait montrer vraiment sa sincérité à aller vers Christ. Mais pour nous, c'était que des bouts de bois ou des pierres. Ça n'avait aucune valeur spirituelle, si vous voulez, notre conscience n'était pas touchée par ça. En revanche, parce que sa conscience était faible, il était important pour nous que l'on prenne ces objets comme un symbole de délivrance pour lui. On a été comme les agents, si vous voulez, de cette délivrance. On aurait très bien pu lui dire, mais bah, rentre chez toi, jette-les demain à la poubelle, et puis voilà. Mais pour lui, c'était pas possible encore d'agir de cette manière-là. Il fallait qu'il y ait comme un représentant religieux qui prenne en main cette chose, si vous voulez. Et alors on a, si vous lisez le livre des Actes, hein, vous voyez aussi la même chose, où à un moment donné, il y a une grande fête, presque, en tout cas une cérémonie, un rassemblement, où à Éphèse, ils brûlent les livres, vous savez, des livres païens, etc. Donc on voit qu'il y a des moments importants où les croyants nouvellement convertis ont besoin de cet acte qui symbolise leur délivrance spirituelle. Mais tout ça pour vous montrer que cet homme avait une conscience, et sa conscience avait été éclairée, les ténèbres avaient été éloignées, mais il avait encore une conscience faible, et donc il ne pouvait pas gérer lui-même la gestion de ses fétiches. Il fallait qu'il donne ça à quelqu'un d'autre. Une autre chose que l'on voit dans les Écritures aussi, c'est que notre conscience peut être souillée. Donc ça, c'est beaucoup plus grave encore. En Tite, chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Donc on voit que l'intelligence peut être souillée et la conscience. Alors, vous noterez avec moi, parce que c'est important pour ce qui va suivre, c'est l'association de deux mots là, c'est l'intelligence et la conscience. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que nous savons, ce que nous pouvons raisonner, notre intelligence, en gros, hein, la capacité de penser aussi. Il y a un lien entre la conscience et l'intelligence. Et donc l'intelligence peut être souillée, et donc ça engendre une conscience souillée. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire là, pour tout est pur pour ceux qui sont purs, et rien n'est pur pour ceux qui sont souillés ? Ça ne veut pas dire que parce que je suis purifié par Christ, parce que je suis chrétien, que je peux faire n'importe quoi, un peu comme le faisaient les dualistes, hein, je peux faire ce que je veux parce que tout est pur pour moi, puisque moi-même je suis pur. Non, c'est pas vrai. Tout n'est pas pur en réalité. Mais pourquoi? Et quand il dit tout est souillé pour les autres, ceux qui sont souillés incrédules, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est souillé. Mais ce que Paul veut dire par là, il parle de la motivation. C'est-à-dire que je peux, par exemple, être quelqu'un de jovial, de poli, qui va faire des blagues, et de quelqu'un d'avenant vis-à-vis des autres. Je peux avoir cette attitude-là. Est-ce que c'est bien d'avoir cette attitude? Bien sûr, il n'y a rien de mal à ça. En revanche, si ma conscience et mon intelligence sont souillées, peut-être que mes motivations, elles, ne sont pas pures. C'est-à-dire que mon attitude aura pour objectif de vous séduire, de vous tromper, de vous manipuler. Donc, comme mon intelligence et ma conscience sont souillées, ce que je fais de bien peut être souillé lui aussi. Ce qui fait que tout est souillé pour celui qui est souillé dans sa conscience. Ça peut être la même chose lorsque, par exemple, ça peut être même dans une église, si j'obéis à des lois religieuses qui ne sont pas mentionnés dans les Écritures, que je m'impose ou que on m'impose, et ce qui fait que je le fais parce que j'ai un sentiment d'appartenance, j'ai peur qu'on me juge, et donc je vais peut-être entrer dans un moule, entre guillemets, chrétien évangélique, mais en réalité je ne vivrai pas dans la pureté. C'est pas parce que je vais faire quelque chose qui est pas répréhensible, c'est bien de le faire, c'est le bon côté de la connaissance du bien et du mal, mais ça ne veut pas dire que c'est la vie qui m'encourage à le faire. D'accord? Donc c'est un point important, c'est-à-dire que tout est pur pour celui qui a une conscience pure. Si pareil, on a cette idée un peu que l'apôtre, un autre apôtre nous explique dans l'épître aux Hébreux, où il est dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est le même problème. C'est-à-dire que si je fais les choses alors que je ne suis pas convaincu que ce que je fais est bien, je commets un péché en réalité. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une harmonie entre ma conscience spirituelle, intérieure, invisible, et ce que je vis. Et s'il n'y a pas cette harmonie, je dois faire attention. Et si je vois qu'il n'y a pas une harmonie chez autrui, je dois soit le reprendre, soit le protéger. C'est-à-dire, il a une conscience faible et je ne dois pas me moquer de lui ou lui imposer quoi que ce soit. Je cite souvent cet exemple, on parlait tout à l'heure de la viande sacrifiée aux idoles, mais imaginez que vous ayez un juif qui se convertisse au christianisme ou un musulman qui se convertisse au christianisme. Les deux ne doivent pas manger de porc. Ils ont été élevés avec cette idée-là, tout comme certains ont été élevés avec la fourchette à gauche et le couteau à droite. Je peux comprendre qu'un frère qui vient de se convertir, qui a pour origine donc la religion juive ou musulmane, n'est pas en vie ou ne puisse pas manger du porc dans un premier temps, parce que ça va affecter sa conscience. Au niveau de la vérité, il a tort, puisque maintenant il est délivré de ça, on n'est plus sous la loi. Mais s'il en mange pour me faire plaisir, je fais chuter. Pourquoi ? Parce que je ne respecte pas sa conscience. Il faut qu'il grandisse. Voyez, et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que il y a une phase où la conscience va être éclairée, mais en même temps, il va falloir s'approprier la vérité pour ensuite vivre en harmonie avec les choix que l'on va faire. Mais s'agissant de la conscience souillée, c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux très bien singer pour faire plaisir aux autres. Je peux pratiquer certaines choses, je peux prononcer certaines paroles. On dit souvent, cette personne-là, elle dit ce que les autres ont envie d'entendre, mais c'est pas forcément le fruit d'une conviction. Donc c'est important de vivre devant Dieu, si vous voulez. Et vivre devant Dieu, ça veut pas dire tout comprendre de Dieu, ça veut pas dire qu'on sait tout sur Dieu. Peut-être qu'on est dans l'erreur dans certains domaines, mais on vit devant Dieu et on respecte Dieu. C'est un peu comme si, imaginons que vous ayez un enfant qui sort avec des camarades et ses parents veulent qu'il rentre à 18h, admettons. Mais cet enfant, soit parce qu'il a mal entendu, soit parce qu'il n'a pas posé la question correctement, peu importe, mais il a l'impression, il croit que ses parents veulent qu'il rentre à 17h. Et donc ses autres copains disent « Mais non, je pense pas, 17h c'est tôt, tes parents, je suis sûr que c'est 18h, ça suffit, reste avec nous. » Mais si l'enfant dans sa conscience est persuadé que ses parents veulent qu'il rentre à 17h, même s'il se trompe, il est important qu'il obéisse à cette conscience. Vous voyez ? Et ses parents ensuite vont lui expliquer que « Ah ben non, tu pouvais rentrer à 18h la prochaine fois, etc. » Donc il y a une progression dans l'éducation. Si vous voulez, l'enfant croyait connaître ses parents dans ce domaine-là ou croyait connaître leur volonté, mais il s'est trompé. Mais c'est pas grave qu'il se soit trompé. Ce qui est important, c'est qu'il l'ait fait en bonne conscience. Et exemple similaire, admettons que ça soit le contraire. Il rentre à 18h en étant sûr que il rentre à 18h alors que ses parents voulaient qu'il rentre à 17h. Là, il a dépassé l'horaire que ses parents voulaient. Mais si dans sa conscience, il était persuadé que c'était 18h, il a fait une erreur en rentrant plus tard, c'est-à-dire qu'il aurait dû s'informer plus précisément, peut-être qu'il a cru que, mais toujours est-il que son péché est moins grave que celui qui pertinemment sait que ses parents veulent qu'il rentre à 17h et qu'il rentre quand même à 18h. Vous voyez les niveaux de conscience, comment ça opère et comment nous, on doit gérer ça en vivant dans la lumière en réalité. C'est-à-dire que la conscience peut ne pas être parfaite, elle peut même être souillée, on vient de le voir, mais ce qui est important, c'est de savoir où on en est par rapport à cette conscience et ne pas mentir à cette conscience. Mais aussi, même si notre conscience, des fois, s'impose, il ne faut pas croire qu'elle est la vérité. Il faut accepter de remettre en cause notre conscience. Et remettre en cause sa conscience, c'est possible par la parole de Dieu. C'est-à-dire, voilà, Dieu, lui, dit que c'est 18 heures. Ben voilà, j'ai compris, c'est écrit, noir sur blanc, je connais le verset, et donc je connais les choses. Mais c'est là où ça devient plus grave, c'est comme c'est ce que dit Paul à Tite au chapitre 1, verset 15, c'est quand l'intelligence et la conscience est souillée. Par exemple, aujourd'hui, le concubinage est vu comme une norme, c'est-à-dire que quelque chose, ça veut dire vivre en couple. La conscience est souillée, en fait, par rapport à l'engagement moral devant les hommes de s'unir à un homme et une femme et de rendre des comptes devant avec cette relation devant la loi. Donc ça, c'est souillé. Ne parlons pas d'homosexualité, ne parlons pas de l'avortement, ne parlons pas de la PMA, GPMA, etc. C'est-à-dire que l'intelligence et la conscience des hommes maintenant est tellement souillée qu'ils croient des fois faire le bien, d'ailleurs, à cause de l'endoctrinement. Mais ça reste un péché aux yeux de Dieu, bien entendu. Donc certains le font en étant conscients de ce qu'ils font, ils désobéissent ouvertement, et d'autres, petit à petit, et ça c'est une malédiction qu'il y a dans les pays où génération en génération, les gens s'éloignent de la vérité et leur conscience, elle est souillée et elle peut devenir même cautérisée. Et on voit ça dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 3, où il y a une conscience cautérisée. On va lire les trois versets là qui parlent de cette vérité. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'esprit vit expressément. Le mot est fort, hein. C'est-à-dire, c'est pas l'esprit dit. Il dit expressément. C'est-à-dire, attirez votre attention sur cette vérité. Que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, vous voyez que les démons ont doctrine. Ils ont des pensées, ils diffusent les pensées dans la population. Et ces doctrines de démons, ils le feront par l'hypocrisie de faux docteurs, c'est-à-dire que ce sont des faux docteurs dans l'Église qui diffuseront les doctrines de démons. C'est pas les démons directement, d'accord? Ce sont les faux docteurs. C'est intéressant parce que Paul en parle à un pasteur. Timothée est un pasteur. Donc vous voyez, il fait la différence entre un bon docteur, un bon enseignant et un faux docteur. Donc ce sera l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, c'est-à-dire que dans leur conscience, il y aura une marque, et qu'est-ce qu'ils diront? Ils prescriront de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, donc on voit aujourd'hui toutes les doctrines sur vegan, etc., ça vient presque une forme religieuse, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'est-à-dire que nous, on a connu la vérité et on prend avec action de grâce que Dieu nous permet de manger. Par exemple, depuis Genèse chapitre 9, on a le droit de manger de la viande. Eh ben, on remercie Dieu pour la viande, on remercie Dieu pour le poisson, on remercie Dieu aussi pour les végétaux, hein. On n'est pas que carnivore, on est aussi un peu végétarien. Mais en tout cas, on n'obéit pas à une seule doctrine que nous imposent les faux docteurs. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il est marqué qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. En fait, c'est un terme qui parle d'être marqué au fer, d'accord? Et c'est intéressant parce que, alors d'autres traductions, je ne sais pas si c'est en Darby ou c'est écrit comme ça, il est parlé qu'ils ont une conscience qui est cautérisée. Et une conscience cautérisée, vous savez, quand vous êtes opéré, vous avez une cicatrice. Et ce qui est particulier, c'est que le bout de chair qui forme la cicatrice, il n'y a pratiquement plus de nerfs dans la cicatrice. C'est-à-dire que c'est un endroit où à la limite vous avez plus mal, parce qu'il n'y a plus de nerfs. C'est la cicatrice qui a permis ça. Ce qui fait que vous pouvez avoir mal à côté lorsqu'on vous pince, mais la cicatrice elle-même, vous êtes cautérisé, vous sentez plus rien. Et ben ça, c'est la conscience cautérisée. C'est-à-dire que les faux docteurs ont une conscience cautérisée par l'hypocrisie qu'ils ont permis dans leur vie, et ce qui fait que leur conscience ne peut plus être sensible à des vérités. Et eux-mêmes diffusent cela. Ce qui fait que ça peut nous amener aujourd'hui à ce que certaines églises, entre guillemets, fassent des cérémonies pour les mariages homosexuels. D'accord? Donc, ils sont persuadés d'être dans la vérité, mais ce sont des docteurs qui précédemment ont diffusé ces vérités. Et ça a toujours été comme ça quand un libéralisme s'est installé dans un mouvement chrétien. Petit à petit, ça commence par la théologie. On commence à remettre en doute certains fondements. Et ces fondements ensuite s'inscrivent dans la pratique. Et quand la pratique est faite régulièrement, la conscience est autorisée, ça devient une habitude de vie, tout comme certaines religions ont des pratiques qui marque leur conscience, ben là, cette nouvelle religion, je dirais, avec qui a pour source le christianisme au départ, les amène à avoir une conscience cautérisée, et évidemment, il ne peut plus y avoir de communion avec ces personnes-là. Alors, la conscience a une vertu quand même, hein. Elle a une vertu, c'est qu'elle est, elle nous accuse parfois. Alors vous allez être étonné parce que d'un côté vous allez me dire, mais il n'y a pourtant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai, mais en même temps on continue de pécher. Et ce qui fait que la conscience va nous aider lorsqu'on n'est plus rempli du Saint-Esprit, qu'on s'éloigne de Dieu, elle peut parfois nous montrer qu'on a tort. On a cet exemple lorsque vous savez les juifs amènent les juifs, c'est surtout les religieux juifs, les pharisiens, amènent devant Jésus une femme qui a commis adultère. Et c'est ce fameux passage où Jésus dit, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et la réaction de ces hommes qui, au début, j'imagine, devaient être violents, ils ont dû traîner cette femme, crier, alors qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Qu'est-ce que t'en penses? Ils essayent de piéger Jésus. Et là, au verset 9, on dirait que la scène est beaucoup plus tranquille. À mon avis, on devait entendre voler une mouche, parce qu'il est dit, quand ils entendirent cela, c'est-à-dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là. Donc là, on voit que la conscience qu'ils avaient n'a pas suffi pour les sauver. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils se sont pas tournés vers le Dieu de grâce. Ça les a pas amenés à la repentance, ça les a pas remis en question dans leur pharisaïsme. En revanche, devant la situation qu'ils étaient en train de traverser, de vivre, ils étaient bouche fermée. C'est-à-dire que leur conscience les amenait à être accusés eux-mêmes en disant bah c'est vrai, on n'est pas digne de jeter cette pierre. Donc cette conscience, si vous voulez, a été un premier pas, aurait pu être un premier pas pour les éclairer un peu plus. Mais ça n'a pas suffi, hein, apparemment, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Mais on voit que la conscience est des fois accusatrice. Une fois, j'avais entendu un message de Pasteur Stevens, bon, il y a maintenant des années, bien entendu, où quand il avait prononcé cette phrase, c'était un peu surprenant, et après il avait expliqué, il disait que la condamnation est parfois bonne, c'est-à-dire que le sentiment d'être, de se sentir condamné est parfois bon. Il est bon quand on pêche, quand on désobéit. Il est bon qu'on ait une mauvaise conscience. Il est bon qu'on se sente coupable. Le pire, c'est quand on pratique le péché et qu'on pense que tout va bien. Et que finalement, pas vu, pas pris, je peux recommencer et ça devient un mode de vie. Donc, quand la conscience nous accuse, ça veut dire qu'il y a quand même encore un signal. Le pire, c'est quand la conscience est tellement cautérisée que du coup on se rend même plus compte de ça. On peut penser par exemple, alors ne pensons pas uniquement à des péchés comme l'adultère ou le vol ou des choses comme ça, mais vous pouvez avoir dans un couple par exemple qui commence à vivre ensemble, dans un premier temps tout va bien parce que les émotions sont très positives, on apprend à se connaître, tout est nouveau. Et puis à un moment donné, vous avez une des deux personnes, en général c'est plutôt les hommes qui sont sujets à ça. Il y a la colère qui se manifeste, l'homme commence à crier, il commence à s'imposer, il commence à manifester sa chair, et là il réalise, oh, mince, je suis en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu, c'est pas normal qu'on ait une relation comme ça. Et ils vont tout de suite se reprendre, d'accord? Parce que leur conscience est éveillée. Mais parfois, certains, malheureusement 5 ou 10 ans après, ne se rendent même plus compte qu'ils se mettent en colère. C'est-à-dire que ça devient un moyen de communication. C'est-à-dire que leur conscience est tellement souillée qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils vivent en dehors de la volonté de Dieu. Ça s'appelle la familiarité aussi. Donc faisons attention à ça. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il est important, comme le disait Paul hein, dans le passage de Romains, ce n'est pas celui qui connaît la loi ou qui lit la loi qui est justifié. C'est celui qui la met en pratique. Et pour la mettre en pratique, il est important, quand on écoute des messages, quand on médite, quand on lit la parole de Dieu, de toujours se dire, est-ce que ça s'adresse pas à moi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème chez moi? De prendre un peu de temps, et alors là, pour le coup, sans s'accuser en permanence, mais de se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un domaine de mon existence où ce qui est dit ou ce qui est écrit là, est-ce que ça ne me concerne pas? Et du coup, la parole de Dieu va purifier notre conscience. Vous savez, la graine, vous connaissez l'image de la graine qui est semée, lorsque le sol est dur, la graine ne rentre pas, ne pénètre pas. Et donc, il est important d'ouvrir notre conscience à la vérité. La conscience est bonne, mais elle peut, quand elle est, je dirais, saine, mais elle est nécessaire pour vivre. Mais lorsqu'elle n'est pas saine, elle peut être source d'erreur et nous amener dans une mauvaise direction. Lorsque nous voyons, par exemple, Caïn, qui amène une offrande à Dieu qui n'est pas celle que Dieu voulait. Vous rappelez, hein, il amène les fruits de son labeur, de la terre, au lieu de présenter le sang et donc un animal innocent qui préfigure Christ. Donc on voit que Caïn désobéit. Mais ensuite, quand vous regardez toute la lignée de Caïn, et puis plus tard, il y a l'esprit de Caïn qui va prévaloir, rappelez-vous, Jude en parle, hein, c'est que c'est ce système religieux où on pense que ce que l'on fait va plaire à Dieu. Et il y a des gens qui sont persuadés d'être dans la vérité, parce que leur conscience a été petit à petit éloignée, et génération en génération, l'être humain s'est éloigné de ce que Dieu voulait. Dieu voulait le sang innocent, sans le sang versé par le Messie, il n'y a pas de rédemption pour les péchés. Et donc, il y a plein de gens sur la terre aujourd'hui qui sont persuadés de faire plaisir à Dieu, parce que leur conscience a été cautérisée. Il faut savoir une chose, c'est que la conscience, souvent on se méprend, la conscience n'a pas de fonction législative, d'accord ? Elle a une fonction judiciaire. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction judiciaire ? Prenons le cas d'un arbitre sur un terrain de football. L'arbitre, c'est un juge, on est d'accord. Donc, vous faites un tacle violent contre un autre joueur, il siffle, il juge, il y a pénalty, coup franc. C'est un juge, mais c'est pas lui qui a fait le règlement. Il n'a pas de fonction législative, le juge. Il a une fonction judiciaire, c'est-à-dire qu'on lui a donné un règlement, on lui a donné une loi, et avec cette loi, ben, il met en action cette loi, si vous voulez, il la met en pratique, en fonction des événements. Ben, la conscience, c'est la même chose. C'est-à-dire que la conscience a un rôle d'arbitre, un rôle de juge, mais n'a pas une fonction législative. Or, si je crois, si par exemple... je reprends l'histoire parce qu'elle est un peu rigolote et en même temps très très imagée, très facile à comprendre. Si ma fourchette est à gauche, enfin à droite pardon, et le couteau à gauche, et que ma conscience siffle dans mes oreilles en disant c'est interdit, change les couverts. Qu'est-ce que fait ma conscience? Elle joue le rôle d'arbitre. Elle siffle quelque chose qui va pas. Mais est-ce que c'est la loi de Dieu? Est-ce que c'est la loi que ma conscience doit mettre en pratique? Non, la loi de Dieu ne m'a jamais dit ça. M'a jamais dit que la fourchette devait être à gauche. Donc en fait, ma conscience se trompe. Tout comme un arbitre sifflerait une faute en disant je parle d'un match de football, hein. L'arbitre siffle une faute parce que le joueur a touché la balle avec le pied. Ben non. Au football, on joue avec le pied. C'est dans la loi, si vous voulez, c'est dans le règlement. Donc, il n'a pas à siffler une faute qui n'est pas tirée du règlement. Et ben, de la même manière, nous, il faut que notre conscience soit petit à petit éclairée par la législation, c'est-à-dire par la parole de Dieu, parce que plus la parole de Dieu nous éclairera, plus la conscience sera un arbitre pertinent. Sera un arbitre fiable, parce que si ma conscience joue un rôle d'arbitre avec une mauvaise législation, ça peut être la religiosité, ça peut être certaines pratiques, alors chacun a sa conscience, alors c'est des fois lié à la superstition, hein, mais je sais pas, il y a des gens qui passent pas sous des échelles par exemple, c'est quand même phénoménal. C'est des bouts de bois là qui sont sur le trottoir et on va pas passer dessous parce que ça porte malheur. Leur conscience est dictée par quelle législation? C'est une législation que leur culture leur a inculquée et qui a trouvé une caisse de résonance dans la crainte de la mort, la crainte de Dieu, la crainte de l'invisible, si vous voulez, ça s'appelle de la superstition. Et donc, on doit délivrer ça. La conscience doit nous purifier de toutes ces règles, de toutes ces habitudes qui ne sont pas correctes. Et d'ailleurs, l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux ne s'est pas trompé, vous vous rappelez, les chrétiens d'origine juive étaient retournés dans le légalisme, et donc ils resacrifiaient des animaux. Et en Hébreux 9, versets 13 et 14, l'auteur dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, là c'est la vache rousse, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ? Là, dans le contexte de l'Épître, c'est des œuvres mortes, ce sont les œuvres que ces chrétiens repratiquaient comme s'ils étaient sous la loi de Moïse. Donc là, l'auteur dit, mais ça sert à rien, parce que les œuvres mortes de l'Ancien Testament, qui étaient la volonté de Dieu auparavant, ces œuvres mortes étaient liées au sang des animaux. Mais maintenant que le sang de Christ a été versé, il n'y a plus besoin du sang des animaux et les œuvres mortes qui s'y rattachaient. D'accord ? Donc vous n'avez plus à célébrer le culte au temple, etc., etc. Donc en fait, la condamnation qu'il y a eu en Jésus-Christ nous purifie et nous donne une nouvelle loi. Ça s'appelle l'Évangile, qui est liée à une nouvelle alliance. Et là, je terminerai là-dessus pour parler de la conscience, parce que vous allez voir que c'est très lié. J'avais jamais vu ça avec autant de pertinence qu'aujourd'hui. Et encore une fois, les trois passages que je vais lire là sont dans les épîtres pastorales. C'est-à-dire que l'auteur Paul s'adresse à ses disciples, à ses pasteurs, leur explique ce qu'est un faux docteur et ce que doit être un bon dispensateur de la parole de Dieu. Et il dit, par exemple, c'est dans l'introduction, dès le début, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, il dit « Or, la fin de l'ordonnance » La fin de l'ordonnance, sous-entendu la fin de la loi, la fin de la règle, la fin de tout ce qu'on peut vous imposer religieusement. C'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Vous voyez, la fin de l'ordonnance, la fin de la loi, c'est l'amour. Et c'est vrai que il va en parler dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour qui reste. On peut avoir tous les dons, tout ce qu'on fait, c'est l'amour. D'accord ? Si on n'a pas l'amour, c'est rien. On peut pratiquer la loi sans amour, mais on peut pas manifester Christ sans amour. C'est impossible. Or, c'est Christ que nous devons manifester maintenant. Donc il dit, or la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, parce que notre cœur a été purifié par le sang de l'agneau, et d'une bonne conscience. Et c'est intéressant parce que bonne conscience, là, c'est alors c'est un mot en grec, je ne vais pas vous citer, mais la racine c'est eido, et ça signifie voir avec les yeux de l'esprit. C'est-à-dire que la bonne conscience, c'est un esprit c'est une conscience qui est remplie de la vie de l'esprit. Et la foi sincère, c'est une foi sans hypocrisie, non feinte. Vous voyez, on revient toujours à ce sujet dont je parlais au début. C'est que quand on a une mauvaise conscience et qu'on fait les choses pour plaire aux autres alors que notre conscience nous condamne, c'est de l'hypocrisie. Mais la fin de l'ordonnance, c'est qu'on n'est plus sous la loi, on est dans la liberté. Mais la liberté, c'est l'amour. Un peu comme saint Augustin disait, aime Dieu et fais ce que tu veux. Parce que si j'aime Dieu, il y a des choses que je ferai pas. En réalité, si j'aime Dieu, je ferai pas tout ce que je veux. Mais j'aime Dieu et comme j'aime Dieu, à partir de ce postulat, je peux faire ce que je veux. J'ai une vraie liberté parce que je ne suis plus sous une condamnation dans l'hypocrisie pour essayer de plaire, de séduire, de me justifier, de manipuler, de pécher, de cacher mon péché. Je ne suis plus dans cette disposition-là. Je suis purifié, j'ai un cœur pur, j'ai un cœur sincère et j'ai une bonne conscience. Et moi, je sais que dans mon ministère pastoral, en l'occurrence, parce que faut pas se tromper, un pasteur se trompe parfois. Il peut se tromper des fois dans les conseils qu'il donne, il peut se tromper parfois dans certaines prédications, il a peut-être fait des erreurs, il a peut-être pas téléphoné suffisamment à telle personne. On fait des erreurs, on n'est pas Dieu, et on progresse, on grandit. Mais j'ai compris un jour que ce qui était important, c'est d'avoir bonne conscience. C'est-à-dire que je fais les choses avec conviction, en fond. Ma responsabilité, c'est de permettre à la parole de Dieu d'éclairer ma conscience de plus en plus, pas dire, ben voilà, c'est moi, je suis comme ça, et puis il faut me prendre comme je suis. Non, non, je dois grandir, je dois toujours avoir des défis dans ma vie, prendre ma croix chaque jour, mais une fois que je fais ça, ça ne fait pas de moi un Dieu parfait, je ne suis pas Dieu, mais je fais les choses avec bonne conscience. Et ce qui fait que si je suis repris, si je me trompe, ben je grandis, je m'humilie, ça, c'est des fois un petit peu vexant, mais en même temps, c'est pas un péché de présomption, c'est pas un péché de mensonge, c'est-à-dire que j'ai fait les choses en croyant bien faire. Et c'est ça qui est plus important. Parce que sinon, on n'a pas cet amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience. en 1 Timothée 1, versets 18 et 19, il dit un peu la même chose. Il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, donc d'après ses prophéties, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et là, c'est intéressant parce que là, le mot foi, ça parle évidemment de ce en quoi on croit, mais en réalité, ça parle de la doctrine, ça parle des convictions. Donc, il faut garder les convictions chrétiennes, garder la foi, garder la vérité, garder la doctrine, et ça donne une bonne conscience. Et quand il parle des faux docteurs, il continue au fin du verset 19, il dit « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Donc, vous voyez, la conscience est perdue parce qu'ils font naufrage par rapport à la foi, et d'autres gardent la foi, donc ils ont une bonne conscience. Donc, on voit qu'il y a un lien entre la conscience bonne et la foi, c'est-à-dire la conviction, ce en quoi on croit. Si je commence à mettre de côté la parole de Dieu, ma conscience va se souiller. Dans un premier temps, elle va m'accuser. Dans un deuxième temps, elle va être tellement souillée qu'elle va tendre vers la cautérisation, vers le fait qu'elle va être marquée au fer et elle deviendra insensible à la vérité avec le temps. Et donc, il est très important que je garde en parallèle la foi et la bonne conscience. Alors, quand je parle de la foi, je ne parle pas uniquement de doctrine, voilà, qui est Dieu, ou ce que je dois faire, etc. Ça parle aussi de la rédemption, par exemple. Je garde la foi, c'est-à-dire je crois que Dieu m'aime, et ça me donne bonne conscience. Je crois que Dieu m'a pardonné, ça me donne bonne conscience. Je crois que Dieu a lavé mes péchés, ça me donne bonne conscience. Je crois que quelqu'un d'autre en face de moi a eu ses péchés pardonnés aussi. Eh ben, j'ai une bonne conscience de pouvoir aller lui parler et d'essayer d'entrer dans un ministère de réconciliation. C'est-à-dire que je vais rentrer dans une conscience qui m'amène à la conscience de Dieu, à la conscience de l'Évangile, à la conscience du pardon, de l'œuvre de la croix. En 1 Timothée 3, 9, il dit encore, Paul, les docteurs, les enseignants doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. On doit garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Il n'y a pas plus libre quelqu'un qui marche par la foi. Et quand je dis marcher par la foi, c'est avoir confiance en Dieu, mais conscience en sa parole. Hein. Je rappelle que selon le contexte, le mot foi parle de la doctrine. Donc il n'y a rien de mieux pour un croyant que de marcher dans la foi et dans une, enfin de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, parce que ça provoque la joie, la paix, l'assurance, la liberté, l'épanouissement spirituel. Des fois, on se dit, comment ça se fait que je suis un peu lourd? Posons-nous la question, est-ce que je grandis dans la parole de Dieu? Est-ce que je continue de conserver les anciennes bornes? Est-ce que je marche dans la foi? Et qu'en est-il de ma conscience? Est-ce que j'ai une conscience coupable en permanence? Si elle est coupable en permanence, c'est dû à quoi? Soit parce que je désobéis en permanence, soit parce que j'obéis peut-être à une loi qui n'est pas celle de Dieu et qui m'accuse en permanence. Et donc, il faut que je rentre dans une forme de liberté. Rappelez-vous, Jésus nous a fait une promesse, la vérité nous rendra libres. Pas libres de faire n'importe quoi, mais libres de faire sa volonté. Et c'est pour ça que quelqu'un de faible qui se relève sans cesse aura une meilleure conscience parfois que quelqu'un qui se croit fort, qui ne tombe jamais, qui est peut-être un faux docteur, mais qui en même temps a une mauvaise conscience parce qu'il n'a pas la paix de Dieu. Celui qui a une conscience qui s'appuie sur des vérités liées à la parole de Dieu et qui marche dans la foi, sur des convictions doctrinales saines, sur toute la parole de Dieu, a une conscience purifiée et marche avec confiance sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.